Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Artree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Neurocomics, Voyage fantastique dans le cerveau, est une bande dessinée documentaire de Matteo Farinella et Anna Roche, deux auteurs formés aux neurosciences. Son objectif est de rendre abordables des mécanismes cérébraux qui sont souvent présentés dans des manuels techniques organisation des neurones, transmission synaptique, activité électrique, mémoire et coordination des réseaux. Le livre ne propose pas un traité exhaustif, mais une introduction visuelle et narrative. Un protagoniste traverse des paysages surréalistes où les forêts, grottes et architectures deviennent des images de structures ou de processus cérébraux. Cette mise en scène permet de relier des schémas biologiques à une progression de lecture concrète. Les cinq parties, consacrées à la morphologie, la pharmacologie, électrophysiologie, plasticité et synchronisme, associent découvertes historiques et principes fondamentaux. Le ton alterne humour, étrangeté et vulgarisation, par son format. Neurocomics cherche moins à réduire le cerveau à des réponses définitives qu'à donner des repères pour comprendre pourquoi son fonctionnement demeure complexe, dynamique et distribué. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la forme de la bande dessinée transforme le cerveau en espace à explorer. Le choix du roman graphique répond directement à une difficulté de la vulgarisation neuroscientifique. La plupart des phénomènes étudiés sont invisibles à l'échelle humaine et difficile à se représenter par le texte seul. Neurocomics traduit donc des réseaux cellulaires, des passages de signaux et des mécanismes de mémoire en décors traversables. Une forêt peut évoquer la densité ramifiée des neurones, tandis que les grottes de la mémoire ou le château des illusions donnent une forme imagée à des fonctions qui resteraient abstraites dans un exposé classique. Cette stratégie ne remplace pas la précision scientifique par une simple fantaisie. Elle sert à créer des points de repère visuels, puis à y intégrer les notions nécessaires. Les auteurs utilisent également des schémas simplifiés lorsque la métaphore ne suffit plus, notamment pour montrer les relations entre les éléments du neurone ou les étapes de la communication synaptique. Le lecteur circule ainsi entre deux niveaux, une aventure volontairement décalée et une explication structurée. Cette articulation est la singularité principale du livre. Elle comporte aussi une limite inhérente au format. Certaines transitions peuvent paraître abruptes, et la concision ne permet pas toujours de développer les débats ou les nuances propres aux neurosciences contemporaines. Deuxièmement, morphologie neuronale, comprendre les cellules avant de comprendre les pensées. La partie consacrée à la morphologie pose le socle de tout le parcours. Le cerveau ne fonctionne pas comme un bloc homogène, mais comme un ensemble immense de cellules connectées. Neurocomics présente le neurone comme une cellule spécialisée dans la réception, le traitement et la transmission de signaux. Les dendrites reçoivent de nombreuses influences, le corps cellulaire participe à leur intégration et l'axone propage un signal vers des cibles éloignées. Cette description élémentaire est essentielle, car elle évite de traiter la mémoire, les sensations ou les décisions comme des facultés mystérieuses séparées de leur support matériel. Le livre rappelle aussi l'importance historique des travaux de chercheurs tels que Santiago Ramón y Cajal et Camilo Golgi dans la compréhension de la structure du système nerveux. Voir les neurones comme des cellules ramifiées et reliées aide à comprendre pourquoi une fonction mentale dépend rarement d'un point unique du cerveau. La forme des cellules, la direction des prolongements et la densité des contacts influencent les voies possibles de circulation de l'information. Cette perspective prépare les chapitres suivants sans connexion, pas de synapse, sans réseau, pas de coordination globale. Le livre rend donc visible le passage décisif entre anatomie microscopique et activité mentale, tout en rappelant que les structures observées ne livrent pas à elles seules une explication complète de la conscience. Troisièmement, synapses et neurotransmetteurs, une communication chimique modulable. Le volet pharmacologique explique que les neurones ne se touchent généralement pas directement au niveau de leur jonction fonctionnelle. Entre deux cellules se trouve une synapse, espace où un message peut être transmis grâce à la libération de neurotransmetteurs. Neurocomics rend cette séquence plus accessible en distinguant le signal électrique qui arrive à une terminaison nerveuse et la médiation chimique qui permet aux neurones suivants de réagir. Cette distinction est importante, le cerveau ne transmet pas une information comme un câble unique transmettrait un courant inchangé. Le message peut être amplifié, freiné ou modifié selon les récepteurs présents et selon les substances qui agissent sur la synapse. Le livre aborde à cette occasion les effets des drogues et des médicaments sur la communication neuronale. Son intérêt est de montrer pourquoi une substance psychoactive peut modifier une perception, une humeur ou un comportement sans postuler une action magique sur le cerveau. Elle intervient dans des mécanismes de signalisation déjà existants. Cette présentation invite toutefois à la prudence. Les effets réels des traitements et des substances dépendent de contextes biologiques, cliniques et psychologiques qui ne peuvent être épuisés en quelques pages. Le mérite du livre est de fournir une carte conceptuelle claire, dans laquelle la pharmacologie devient une étude des conditions de dialogue entre cellules plutôt qu'une liste de molécules à mémoriser. Quatrièmement, électricité et plasticité, le cerveau agit et se reconfigure avec expérience. Deux chapitres complémentaires montrent que le système nerveux est à la fois électriquement actif et durablement transformable. Dans la section sur électrophysiologie, Neurocomics explique que le neurone conduit des variations électriques le long de sa membrane. Les échanges oniques et les propriétés de cette membrane permettent la propagation du signal sur l'axone. Cette base physique relie la cellule nerveuse à la rapidité des sensations, des mouvements et de certaines réponses du cerveau. Le chapitre sur la plasticité déplace ensuite la question « Une activité neuronale répétée ne laisse pas forcément le réseau identique ». Les connexions peuvent se renforcer, s'affaiblir ou se réorganiser selon les apprentissages et les expériences. La mémoire ne se présente donc pas comme un simple dépôt fixe rangé dans une zone isolée, mais comme une modification de circuit dont les relations évoluent. Cette idée aide à comprendre pourquoi apprendre implique de la répétition, du temps et un contexte, sans promettre que le cerveau serait infiniment malléable à volonté. La plasticité a des limites biologiques, varie selon les périodes de vie et ne résout pas automatiquement les conséquences de lésions ou de maladies. En rapprochant signal électrique et changement de connexion, le livre évite deux erreurs opposées, imaginer un cerveau figé, ou le décrire comme une matière entièrement reprogrammable. Il offre plutôt une vision dynamique où la structure influence l'activité et où l'activité contribue, à son tour, à remodeler la structure. En dernier lieu, synchronisme cérébral et conscience refusaient le mythe du centre de commande unique. La dernière partie insiste sur le synchronisme, soit la coordination temporelle de populations neuronales réparties dans différentes régions. Cette idée corrige une représentation intuitive mais trompeuse, il ne existe pas nécessairement un chef central qui commanderait chaque opération mentale depuis un poste unique. Les fonctions cérébrales émergent de coopération entre réseaux, dont les activités doivent parfois être alignées ou rythmées pour produire une perception cohérente, une action ou un souvenir. Les ondes cérébrales offrent un exemple de cette activité collective, même si elles ne doivent pas être prises pour une lecture directe et simple de chaque pensée. Le livre fait de cette organisation distribuer un point d'arrivée logique, après avoir rencontré le neurone, la synapse et les transformations liées aux apprentissages. Le lecteur voit que le niveau pertinent pour comprendre certaines fonctions est celui du réseau entier. Cette approche ouvre aussi une réflexion sur la conscience, les illusions et le rapport entre cerveau et esprit. Neurocomics adopte une orientation matérialiste marquée, susceptible de nourrir la discussion philosophique, mais ses apports les plus solides restent pédagogiques, ils montrent pourquoi aucune cellule isolée ne peut résumer une personne. La pensée dépend de multiples niveaux d'organisation, depuis les signaux locaux jusqu'aux dynamiques collectives, en terminant sur cette absence de centre souverain. L'ouvrage préserve une part de complexité, au lieu de faire croire que les neurosciences auraient définitivement résolu la question de ce que signifie être conscient. En conclusion, Neurocomics convient surtout aux lecteurs curieux qui souhaitent acquérir des bases fiables sur le cerveau sans commencer par un manuel universitaire. Des collégiens avancés, lycéens, étudiants de disciplines voisines, enseignants à la recherche de supports visuels et adultes non spécialistes peuvent y trouver une porte d'entrée utile. Le livre sera moins satisfaisant pour les professionnels de santé ou les lecteurs qui cherchent une synthèse détaillée sur la neuroanatomie, la clinique ou les méthodes expérimentales. Sa brièveté impose des simplifications et laisse volontairement de nombreuses questions ouvertes. Ce choix est cependant cohérent avec sa fonction susciter une compréhension initiale et donner envie de poursuivre par des sources plus approfondies. Son bénéfice intellectuel principal consiste à relier cinq idées fondamentales. Les neurones possèdent une structure spécialisée. Les synapses modulent les échanges. Les signaux ont une dimension électrique. Les réseaux changent avec expérience et leur activité repose sur des coordinations distribuées. Par rapport aux ouvrages de vulgarisation fondés uniquement sur des analogies verbales, Neurocomics se distingue par une véritable grammaire visuelle. Les images ne décorent pas le propos, elles organisent le raisonnement et rendent les changements d'échelle plus intuitifs. Son univers noir et blanc, étrange et parfois burlesque, lui donne aussi une identité différente des guides pédagogiques illustrés plus conventionnels. Il faut le lire comme une carte introductive, non comme un verdict définitif sur le cerveau, la conscience ou les traitements. Dans ce rôle précis, il offre une rencontre rare entre bande dessinée, histoire des sciences et initiation aux neurosciences. Si vous souhaitez soutenir Matteo Farinella, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.